Aujourd'hui, je vous propose de développer en effet cette notion de contrat ludique. Pourquoi ? On a tendance à considérer, à donner comme définition première du jeu une activité qui est notamment soumise à des règles. Et on a cette idée que, aujourd'hui, que tant que les règles sont respectées, à la fois les règles ludiques, mais aussi les règles sociales qui accompagnent le jeu, eh bien, il n'y a pas de violence. Hein. La violence étant une sorte de sortie perverse du jeu. Mais ça pose le problème immédiatement de la définition même de la violence. Alors, tout à l'heure, il y a eu quelques tentatives de définition, de poser en tout cas déjà le problème. Je voudrais simplement rappeler cette définition de base qu'on trouve par exemple dans le Petit Robert. La violence, c'est agir sur quelqu'un ou le faire agir contre sa volonté. Et ceci en employant la force ou l'intimidation. Il y a aussi souvent l'idée associé à la violence, donc d'un usage de la force qui impose un dommage au corps. Et là encore, c'est un petit peu une définition problématique parce que cette focalisation de la définition de la violence sur le corps nous fait oublier des expériences que nous vivons tous au quotidien, hein, violence psychologique, violence sociale. Ailleurs, par exemple, la sorcellerie, c'est une violence surnaturelle qui est exercée. Et qui est exercée dans un usage que, dans certains lieux, à certains moments, dans certaines cultures, on considère donc illégitime. Il faut toujours se poser donc la question de la définition locale de la violence. Elle varie de lieu en lieu de l'acceptabilité de la violence. Et ceci nous permet, cette définition basique, hein, agir sur quelqu'un contre sa volonté, ça nous permet de réaliser tout de suite que dans tout jeu agonistique, il y a une violence qui est présente. Le gagnant impose sa volonté, impose sa force, que ça soit une force physique, à la lutte, une force intellectuelle, aux échecs, etc. Le gagnant impose sa force au perdant. Tiphaine disait aussi tout à l'heure que la violence se caractérise par une modification brutale de l'état des choses. C'est typiquement ce qui se trouve dans un jeu. Dans un jeu, on a au départ des pairs, P-A-I-R, qui sont des égaux, et qui, à la fin de la partie, bascule dans une situation hiérarchisée avec un ou des gagnants et des perdants. Véronique donnait ce magnifique exemple du jeu d'Aléa avec cette formule « les ennemis sont vaincus ». On retrouve là, de fait, une vieille position des théologiens qui, vous le savez, au moins depuis le christianisme, ont développé une condamnation, alors avec des subtilités, etc., mais quand même une condamnation, une longue condamnation des pratiques ludiques, avec, pour différentes raisons, mais avec notamment l'idée que dans le jeu, et particulièrement dans le jeu de hasard avec enjeu, on lèse inévitablement autrui. La joie que l'on prend à gagner s'oppose au déplaisir du perdant. Et on lui prend de l'argent, etc. Et on oublie, nous disent les théologiens d'antan, on oublie les préceptes de la charité. Donc s'il vous plaît, la prochaine fois que vous jouez, laissez gagner votre adversaire. Alors, j'aimerais aujourd'hui faire un petit pas de côté par rapport à la notion de violence en considérant en amont des règles le contrat ludique qui me semble tout à fait essentiel pour comprendre cette problématique du jeu et de la violence. Très rapidement, je disais, il y a cette cette définition basique, classique, du jeu par la règle. Il faut tout de suite noter, petite parenthèse, que la clarification de la notion de règle du jeu, est tardive. Ce que savent tous les antiquisants, on a des tas de plateaux de jeu, on ne sait pas précisément comment on y jouait, les règles n'ont jamais été inscrites. Les premiers traités, les académies du jeu, mélangent, à partir de l'imprimerie, pour simplifier, bien, ces premiers traités mélangent allègrement les règles, les stratégies, la sociabilité. En fait, ces premiers traités donnent les règles exactement comme cela se passe dans des interactions sociales traditionnelles. C'est dans l'interaction que l'on découvre, que l'on apprend, que l'on affine les règles du jeu. Et c'est la transmission différée par l'écriture qui a participé à la construction de l'idée de règles ludiques. Pour finir cette parenthèse, ça pose tout de suite la question, que signifie respecter la règle quand, dans les situations, disons, traditionnelles, celle-ci n'est pas explicite, n'est pas totalement explicite, hein. Alors, pour continuer, je dis donc qu'en amont des règles se situe ce que d'autres ont déjà appelé le contrat ludique, et qui est un élément essentiel pour entrer dans la partie, pour entrer dans le jeu. Cette idée de contrat ludique a notamment pu être développée par des philosophes comme Colas Duflot, des historiens et sociologues du sport comme Pierre Parlebas. Pierre Parlebas, par exemple, qui déjà dans les années 1980, donnait que le contrat ludique, c'est le pacte fondateur d'une micro-société. La micro-société formée par les joueurs. Ce pacte ludique, que dit-il ? En substance, il dit qu'il y aura des règles à respecter, qu'il faudra s'accorder sur des enjeux. L'enjeu, ça peut être juste la reconnaissance d'avoir gagné, ça peut être la liasse de billets de banque, ça peut être la fille du roi, etc. Peu importe. Ce contrat ludique induit aussi que l'action ludique va s'inscrire dans un espace et dans une temporalité spécifique. Que l'on va déployer, enfin, une sociabilité particulière. Sociabilité qui se distingue sur plusieurs plans de la sociabilité de la vie ordinaire. On plaisante entre joueurs, on se tutoie, on se vêt ou on se dévêt de ses vêtements. Pensez au sport où les corps des sportifs sont nus ou quasiment nus, etc. Tout ceci pour dire que le contrat ludique est ce pacte initial qui rend possible l'action ludique. Il y a un accord de principe sur des règles et des normes qu'il faudra ensuite définir plus ou moins bien dans le détail. Alors ce contrat ludique, il a évidemment été considéré comme une sorte de modèle réduit du contrat social à la Jean-Jacques Rousseau. Par le bas, qui derrière un jargon un petit peu spécial, mais peu importe, dit bien que ce contrat ludique et le jeu qu'il permet sont des voies royales de la socialisation. Alors, deux remarques. La première, une remarque historiographique. Cette idée de contrat associé au jeu existe depuis longtemps. On le sait, en français et dans les langues européennes, l'adjectif ludique est récent. Avant le XXe siècle, les juristes, les théologiens utilise néanmoins cette notion de contrat, notamment la notion de contrat dit aléatoire, pour reconnaître les cas où un transfert de biens est légitime. Longue question, très débattue. C'est légitime quand, dans certains cas, dans la situation, et c'est là où c'est un contrat donc dit aléatoire, quand ce transfert de biens est déterminé par un événement incertain. On pense évidemment au jeu et au pari, mais il y a d'autres exemples. Les assurances, les rentes viagères. Et cette notion de contrat donc, est associée au jeu depuis fort longtemps. Peut-être un des premiers à l'avoir explicitement utilisé, c'est le franciscain Olivier qui, au XIIIe siècle, parle de « contractus ludi », de contrat du jeu, pour parler de ces jeux de hasard qu'il estime légitimes. Remarque maintenant, pour ne pas confondre totalement le contrat social et le contrat ludique. Le contrat social tend à la constitution de la société. Tous les membres de la société sont censés en tirer parti. L'idée sous-jacente est qu'à plusieurs, on est plus fort. A contrario, si le contrat ludique rend possible le jeu, il aboutit aussi, on l'a vu, pour les jeux de type agonistique, à une rupture, à une hiérarchie entre les joueurs, entre les gagnants et les perdants. Donc d'un côté, on a le contrat social qui crée un corps social. De l'autre côté, on a le contrat ludique qui rend possible la rencontre agonistique. Deuxième point, le contrat social préexiste à notre venue au monde. On ne peut que l'accepter en l'état et le modifier de manière tout à fait marginale, sauf à s'appeler peut-être le Bouddha, Donald Trump ou Greta Thunberg. Je donne le meilleur et le pire. En regard, on constitue un nouveau contrat ludique à chaque partie. Et en cela, donc, chaque moment ludique fournit une expérience actualisée de ce contrat social. Et là, on retrouve évidemment la valeur métaphorique très souvent prêtée au jeu et dont Marco nous vient de nous parler notamment. On avait aussi, j'avais noté cette formule que rappelait Véronique, tirée de Huizinga, « Si les règles sont violées, la société tombe dans le chaos ». On est toujours là dans ce registre métaphorique. Alors, j'aimerais examiner avec vous maintenant différentes variétés de jeux où ce contrat ludique est à l'œuvre. Je passe, sans commentaire, sur les jeux et sports où le contrat ludique est évident, on joue ensemble, on établit les règles, etc. Pour aller tout de suite à des cas problématiques, et c'est justement à ces frontières que l'on voit des choses intéressantes. Première frontière, c'est le rapport au corps. Il y a de nombreux jeux où la rencontre des corps, ou la rencontre des esprits aussi, mais restons sur les corps, où la rencontre des corps s'accompagne d'une rudesse physique. Pensons à la boxe, à la lutte, au rugby, hier à la soule, etc. Historiquement, on constate qu'il y a une certaine infantilisation du jeu qui est à l'œuvre depuis le 18e, 19e siècle et qui aboutit à la condamnation des jeux où le corps est mis à l'épreuve. Vous ne connaissez plus, j'imagine, le cheval fondu, ni la main chaude, qui est main chaude, qui était déjà pratiquée du temps de l'Antiquité et qui consistait donc à un joueur à mettre une main derrière le dos et à se cacher le regard et ses compagnons frappaient la main dans le dos jusqu'au moment où la victime identifiait l'agresseur. D'où le fait que la main, à force, elle devient chaude. Ce sont des jeux, peut-être vous connaissez ces jeux qui consistent à taper sur la main de l'autre, comme ça, très, très rapidement. Hein. Jeu de main, jeu de vilain, dit-on. Beaucoup de jeux traditionnels sont basés sur la capacité à endurer la douleur. Notamment pour les populations du Nord, les Inuits, hein, les Esquimaux, qui vivent dans un environnement très dur. Autre exemple de ces condamnations des jeux où la violence s'exerce, dans les écoles, dans les lycées, le petit pont massacreur. Qu'est-ce que c'est que le petit pont massacreur ? On joue avec une petite balle, et quand la balle, on est à plusieurs, il n'y a pas d'équipe, hein, c'est individuel, mais quand la balle passe entre les jambes d'un des joueurs, ça forme un pont, eh bien, il se fait massacrer. Ça signifie quoi ? Ben, on le rudoie, on lui donne des coups, etc. Voilà. Là, on est en présence d'un type de jeu qui se termine par un gage, et ce gage consiste à amicalement donner des coups qui font un petit peu mal, quoi. D'où les condamnations, évidemment, des pédagogues. Mais pour les joueurs, on est bien dans un contrat ludique. La règle a été posée d'abord et on l'accepte, etc. Autre élément intéressant pour saisir hein, cette notion de contrat ludique, ce sont toutes ces situations ludiques où la règle change, mais où on est toujours dans le contrat. Y a un exemple que j'aime bien, c'est la partie d'échecs du petit Nicolas. Le père du petit Nicolas, enfin, le petit Nicolas reçoit un de ses amis, et le père du petit Nicolas leur apprend à jouer aux échecs. Et il commence à avancer les pions, les cavaliers, etc. Mais entre nous, c'est ennuyeux comme jeu. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils changent le jeu, ils mettent les deux armées de pièces l'une en face de l'autre, et puis ils utilisent les pions, paf, pour lancer et détruire les rois, dames, tours, etc., de l'adversaire. Le jeu stratégique d'échecs s'est transformé en ce que, dans les foires, on appelle un jeu de massacre. Un autre exemple, encore plus fort de cette transformation des règles, du type de jeu, hein, complètement, mais qui reste dans un contrat ludique. Je ne sais pas si l'anecdote est historique ou si elle est purement littéraire. Elle est rapportée au début du 19e siècle. On est à Port-au-Prince, une partie de cartes, et une discussion s'élève entre les deux joueurs. L'un des deux jette au visage de l'autre ses cartes. L'autre se sent évidemment insulté, mais il dit « ne bougez plus, que l'on apporte un pistolet chargé ». On pose le pistolet sur la carte, il prend le paquet de cartes, le joueur insulté, en tire une carte sans la montrer et demande à son adversaire « rouge ?» ou noir. Et l'autre, il y a le pistolet qui est chargé, qui est là. Hein. Il n'y a pas eu d'énonciation de la règle, mais en même temps, on est toujours dans le contrat ludique et la règle se comprend. L'autre répond noir, la carte est dévoilée, elle est rouge. Le joueur insulté prend le pistolet et le décharge, faisant éclater la cervelle de l'autre. Le jeu s'est déplacé. L'enjeu a augmenté jusqu'à une valeur extrême. Mais on est resté dans un contrat ludique. Là encore, j'attire votre attention sur les définitions contemporaines du jeu qui ont tendance à vouloir croire que dès qu'il y a sang, dès qu'il y a un petit coup de violence, ça ne serait plus du jeu. ça ne correspond absolument pas à la réalité des faits culturels et historiques de par les temps et de par les mondes. Dernier exemple de contrat ludique un petit peu particulier. Le bonto. Vous avez peut-être tous en tête l'image de ce magnifique tableau de Jérôme Bosch, 16e siècle, l'escamoteur. C'est un jeu qu'on doit appeler depuis la fin du 19e siècle le bonto, qui se pratique avec soit des gobelets, soit des cartes à jouer. Hein. Il y en a trois. Et il faut soit découvrir la carte rouge au milieu des deux cartes noires, soit identifier où la petite muscade se promène entre les coquilles de noix ou les gobelets. Jeu millénaire, hein, déjà présent dans l'Antiquité. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce jeu qui a plus de 2000 ans fait toujours des victimes, des dupes. C'est un jeu avec des règles et avec un contrat ludique hein, qui est annoncé clairement. Le bon bonimenteur dit « Je ne joue pas avec des personnes qui sortent de l'hôpital des 15-20 pour les aveugles. Je joue avec des bien-voyants. Vous avez la vue, vous pouvez regarder où est la carte rouge, où est la muscade. Tout est transparent de ce que je fais. » Et on parie. Si vous trouvez où est le bon emplacement, vous gagnez les 50 euros. C'est le tarif actuellement, par exemple, en bas de la Tour Eiffel. Ou sinon, bah, c'est moi qui empoche vos... Si je suis le bon inventeur, c'est moi qui empoche votre mise. Là, on a évidemment une fascination du regard sur la scène qui fait que... Enfin, sur le plateau de jeu, hein, qui fait qu'on oublie la scène dans son entier, ce qui fait que souvent il y a des pickpockets qui arrivent, qui en profitent, qu'on ne voit pas non plus les barons qui sont de mèche avec le bonimenteur. Mais on est là typiquement dans un contrat ludique, mais c'est un contrat ludique évidemment qui est un petit peu faussé. Alors j'aime bien la remarque que fait Louis Puy Barreau tout à fait à la fin du 19e siècle. C'est le commissaire de police à Paris. Il a fondé ensuite la Mondaine. Il dit « La clientèle du bonteur est composée de ce genre de gens qui se croient plus fins que lui. » Et il se demande s'il faut avoir de la pitié pour les victimes. Derrière chaque victime, il y a un jobard qui se réjouissait à l'idée d'être un dupeur et qui a été dupé. Très belle analyse. C'est un contrat ludique où les règles sont clairement posées, mais où néanmoins il y a un contrat ludique qui est un petit peu faussé parce que le naïf, celui qui perd le billet de 50 euros, il croit qu'il est dans un jeu entre pairs et où il va s'imposer parce qu'il voit en effet la carte qui bouge, il n'y a pas de problème. Mais on le sait, il n'y a pas d'égalité des chances et on n'est pas véritablement entre pairs. Alors, on n'est pas entre pairs, et ça me permet d'introduire une autre catégorie de jeux, ceux dans lesquels, justement, le contrat ludique est absent. Dans le contrat ludique, avec le contrat ludique, tous les participants au jeu sont d'accord de participer. Il y a d'autres jeux que j'appelle des jeux impairs, I-M-P-A-I-R, dans lesquels, en fait, il y a certains participants qui sont dans le jeu et d'autres qui sont des participants malgré eux. L'exemple peut-être le plus scandaleux, c'est le Happy Slapping, qui a défrayé la chronique... Récemment, qu'est-ce que c'est ? Littéralement, c'est la baffe joyeuse, happy slapping. Ça consiste donc pour un groupe à choisir une victime dans la rue, à fondre sur la victime, à la tabasser, tout en filmant la scène et en diffusant la vidéo sur les réseaux sociaux. On est là, dans une pratique, avec un ou des bourreaux et une ou des victimes. Hein. Condamnables, évidemment. Il faut condamner ça. Et c'est un jeu impair, puisqu'il ne place pas les participants dans la même situation. Et clairement, la victime ne participe pas du contrat ludique. Alors, ces jeux impairs, ils s'étagent du plus scandaleux, comme le happy slapping, à des jeux anodins que vous avez sans doute dû participer, au moins dans votre enfance. Un exemple que j'aime bien, c'est celui de la partie de sonnette, qui consiste à sonner à une porte et à s'enfuir en courant. Pareil, des bourreaux, ceux qui appuient, et une victime, la personne qui est dérangée. Dans RG, des scènes amusantes, bande dessinée d'RG, notamment avec le petit Abdallah qui s'amuse à appuyer comme ça sur la sonnette et à déranger le capitaine Haddock. Mais que le capitaine Haddock, et là ça devient très intéressant, il répond à cette provocation. Il entre dans le jeu. Il prend un tuyau d'arrosage et il est prêt. La prochaine fois que la sonnette va ouvrir, il va ouvrir la porte très vite et arroser le petit Abdallah. Évidemment, si vous vous rappelez la scène, ce sont les Dupont et Dupont qui ont le malheur de sonner et de se prendre en premier la sauce. Toujours est-il que cette scène et cette pratique de la partie de sonnette, disons, montre bien l'importance de la provocation. C'est la participe à l'entrée dans le jeu. Dans tout jeu, il y a au départ, sous une forme ou une autre, une sorte d'insulte ludique. « T'es pas capable de m'affronter. » C'est ça ce qu'on dit concrètement. Et ces jeux impairs, finalement, ils se développent. On les trouve dans beaucoup de situations. Ce sont les blagues, ce sont les canulars, ce sont les plaisanteries, etc. Avec cette particularité que ces jeux sont souvent impairs d'un point de vue synchronique et pairs dans la diachronie. C'est-à-dire qu'on subit une blague et 5 minutes ou 1 an plus tard, on renvoie une autre blague. Autre exemple de jeu impair, ce sont les jeux avec les animaux. Dans les temps antiques, on jouait par exemple avec des hannetons. Le hanneton n'a pas demandé à jouer. Alors, pour conclure, deux problèmes, rapidement, en lien avec cette question de la violence. Tout d'abord, comme a pu par exemple le rappeler Charles Hillou dans son livre récent, il y a le problème de la mise en scène dans le jeu de la violence. On est souvent dans l'excès, dans l'augmentation de la dramatisation du jeu. Cela renvoie aussi à l'idée de morsure ludique qu'avait bien formulé Gregory Bateson. On montre les dents ou on esquisse une morsure et par cette action signifiante, qui est une action agressive, on dit en même temps que ce n'est que du jeu. Mais évidemment, en mordant, on peut faire mal et l'autre peut répliquer, etc. Et puis le problème de l'irruption. Donc, l'irruption d'une violence, disons physique, qui n'entre pas dans le cadre ludique posé initialement. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le joueur agresse celui qui était jusqu'alors son adversaire ou son partenaire. D'ailleurs, les deux termes peuvent être presque utilisés comme des synonymes. Alors, est-ce que cela signifie qu'il y a une faiblesse, une fragilité particulière du contrat ludique par contraste des autres situations de la vie sociale? On est en Normandie, j'aurais une réponse de Normand. Oui, d'une certaine manière. Le contrat ludique est toujours au bord de la rupture. Et ceci est en lien avec le dynamisme propre au jeu. L'incertitude, la surenchère dont je parlais, la recherche permanente des limites posées par les règles, le détournement aussi, détournement des sens, détournement des règles, etc. Et puis par cette mise en scène de la violence. Et donc, on frôle par nature avec le jeu sans cesse le drame, sans cesse le basculement dans une violence qui n'est pas souhaitée par un ou plusieurs des partenaires du jeu. Mais réponse de Normand, en même temps, non. Parce que quand on regarde la densité, le nombre de jeux auxquels on participe, l'intensité aussi émotionnelle que suscite en nous beaucoup de ces jeux. Les dérapages, au final, sont rares, sont exceptionnels. Évidemment, si on en fait la liste, elle devient conséquente. Mais il faut aussi regarder concrètement combien de parties, combien de violences physiques à la fin. Voilà. Je vous remercie.
Merci.